Vous écoutez
RMC.
RMC.
Viry Châtillon, Sucy en brie. Coup d'envoi 2h. On gagne 6-0, je mets les 6 buts.
J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR. Mais la VAR ne fonctionnait pas. Et elle s'est remis à fonctionner juste après. Bizarre.
Dernier mot, Fabregas. J'ai aucune info. Vous devez savoir.
Ah, je l'ai eu tout à l'heure, il allait bien. Il était chez lui. Donc voilà.
Mais le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Le temps ne s'arrête pas. Là, j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue. J'ai arrêté le temps de ma montre. Mais pas le temps. Le temps n'a pas de temps. Mais il faut du temps.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Walid Acharchour, avec Simon Dutin et avec Jimmy Brown, on est ensemble jusqu'à 22h. Vous le savez, l'After prend le relais comme tous les soirs. Jusqu'à minuit, hein, n'hésitez pas aussi à télécharger le podcast de Génération After. Le nouveau podcast aussi, c'était pas dans Génération After. On est avec vous à toute heure de la journée, bien sûr. Tiens, un petit message de Oussem sur notre débat de Tchouaméni, qui n'est pas le plus grand défenseur d'Orient Tchouaméni.
Oussem Moussaïev,
bien sûr, qui nous dit... J'aime bien la formule, elle est un peu sévère peut-être. Tchouaméni, c'est la forme de Pogba avec le fond de Chantôme.
Ouais, ah, Chantôme, ouais. C'est dur. Pas révéler les discussions du groupe WhatsApp à l'antenne, comme ça, c'est pas
dur.
Beau.
C'est un peu dur, mais...
Chantôme, c'est dur, mais il a raison, Ous, en disant que le morphotype qui... Tu les mets à contre-jour, t'as l'impression que c'est les mêmes avec Pogba. Et pourtant, il a pas le même foot dans les pieds quand même.
C'est un très bon joueur et on a envie de voir mieux.
C'est un très bon joueur,
On a envie de voir mieux.
Alors, messieurs, je rappelle que dans 3 jours, c'est Marseille-Paris.
RMC, OM, PSG.
J-3.
J-3 sur RMC, bien sûr, avec Jean-Louis Tour qui sera au Vélodrome pour ce match, entouré de Flo Germain, Jeanne Orecegui, le débrief dans la foulée, dans l'after, évidemment. Alors, on a convoqué un homme qui a joué sous le maillot marseillais, sous le maillot parisien, années 90-2000. Peter Luxin est avec nous. Salut, Peter.
Salut à tous, bonsoir.
C'est cool de t'avoir Luxin, avec nous.
Salut, Peter.
Et ouais, fort, Peter, quand même. Joueur patrimoine Ligue 1 là aussi.
Ouais.
Et un peu Liga aussi.
Ah oui, patrimoine.
Il a joué à Marseille, il a joué à Paris, mais avant Marseille.
Il a joué à Bordeaux.
Et oui, une saison.
Patrimoine jeunesse, moi c'est mes grands. Enfin, j'ai pas de grand frère, mais c'est époque grand frère quoi. C'est... Non, mais on nous parlait de Peter Luxin, nous, quand on est arrivé 8, 9 ans, 10 ans dans le foot. On nous disait Luxin et Dalmat. Il y avait un vrai.
Bien sûr,
il y avait une vraie hype là-dessus quoi.
Et juste pour finir.
J'ai pris un coup de vieux, un coup de vieux en 30 secondes.
Et Peter, juste pour finir de lustrer là, pour te mettre dans les bonnes conditions, il y a coach Courbis qui t'a entraîné, c'est à Bordeaux.
Roland, c'est mon second papa, on va dire.
Ben moi, c'est une des plus belles formules que j'ai entendues de Roland sur un joueur. Il disait Luxin, quand tu reçois une passe de Luxin, t'as l'impression qu'il a nettoyé le ballon avec un chiffon tellement la passe.
Elle est lessiveuse, oui.
C'est beau ça.
Il prenait un ballon dégueulasse et le nettoyait.
Magnifique.
Bon, on passera le message à Roland. Alors, Peter, t'es adjoint aujourd'hui du FC Dallas aux États-Unis en MLS où t'as fini ta carrière de joueur. T'es heureux? Ça va au Texas?
Super. Là, ça fait quoi? Ça fait 10 ans maintenant que je suis au Texas avec mes enfants et ma femme, en tant qu'adjoint, comme vous le savez bien. Là, on est en pleine saison aussi. Mais bon, vous savez que la saison, elle est un peu décalée avec la saison européenne. Donc, on vient juste de commencer. Et super. On est tout va bien ici.
Bon, en plus, on entend que tu as pris l'accent texan, là, quand tu nous parles dans Génération After.
Ben, mais c'est pas mal, hein, l'accent texan mélangé avec l'accent marseillais, ça doit faire un bon mélange.
C'est un bon smoothie.
Donc, je précise, deux saisons à Marseille, 90-2000, une saison à Paris, 2000-2001. Tu as joué 3 classicos en tant que titulaire, 2 avec l'OM et 1 avec Paris, une époque où il y avait match entre les deux équipes. Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir, toi? Un souvenir, tu as des frissons quand tu y penses, ou c'est aussi une pression énorme, monumentale, qui te fait dire... Je les ai passés, c'est loin derrière moi.
Non. Plus, ça a été des gros souvenirs parce que finalement, les joueurs, on rêve que de matchs comme ça. Hein. C'est des matchs avec un engouement énorme. On en parle presque un mois avant. Donc, c'est sûr que plus que des frissons, je dirais, c'était vraiment un engouement spécial pour tous les joueurs. C'était une pression. Bon, moi, dans mon cas, ça a été un peu différent parce que mon troisième classico, ça a été... avec Paris, donc
oui.
Vous pouvez bien imaginer que j'ai reçu un peu de tout. J'ai reçu un peu de tout, mais ça a été énorme, quoi. C'est des gros matchs, c'est des matchs que tout joueur veut jouer, quoi.
Tu passes de Marseille à Paris en 2000, hein, t'as 21 ans, hein, t'es jeune hein, quand t'arrives à Paris. Tout à l'heure, Jimmy, on parlera aussi de cette époque parisienne. C'est l'autre plus gros transfert à l'époque du club avec Okocha, 90 millions de francs. À l'époque, ce qui nous fait quoi, environ 15 millions d'euros à peu près.
C'est ça.
Les jours avant ton arrivée avaient été très tendus. Hein. Pas mal de supporters parisiens s'étaient opposés à ta venue. Toi, le Marseillais de naissance aussi. Comment tu l'as vécu à l'époque, ça?
Ça a été difficile dans les deux, dans les deux sens, parce que finalement je suis parti de Marseille où ça a été vraiment difficile, même sur le côté familial, parce que pour mes frères, pour mes parents, ça a été difficile à vivre. Et ensuite, en arrivant à Paris, où justement on m'a attendu pas les bras ouverts, on va dire, du côté des supporters. Et mais je l'ai bien pris, parce que finalement moi tout ce que je voulais c'était être sur le terrain. On a dû faire une réunion un peu assez spéciale entre le staff, moi-même et les supporters, pour justement que les supporters comprennent que moi j'étais là pour justement gagner des titres et donner le maximum de moi-même. Et donc ça a été difficile au départ, mais c'est rentré dans l'ordre après le premier match. Parce que justement, ils ont vu que j'étais prêt à tout donner. Et que ce soit à Paris, que ce soit à l'Atlético Madrid, que ce soit à Celta Vigo, à Marseille, j'ai toujours fait la même chose. Donc ça s'est calmé et ça s'est très bien passé après. Bon, après, sur la fin de saison, ça a été un peu différent. Mais j'ai été content quand même de mon année parisienne.
Peter Luxin est avec nous dans Génération After. Simon.
Oui, Peter, il y avait une énorme équipe à Marseille. Hein, je ne vais pas aller jusqu'à dire que le vrai classico à l'époque, c'était contre les Girondins de Bordeaux, Delibop. Vous en aviez pris une belle, hein, à l'Escure, je crois, un petit
31 janvier 1999.
Le plus grand souvenir au stade. Il y avait une grosse équipe à Marseille. Supporter
bordelais, là. Hein.
Oui, un petit peu, mais il y avait une grosse équipe à Marseille. Ma question, elle est toute simple, parce que Dalmat, Okocha, Luxin, c'était monstrueux à l'époque de recruter tous ces joueurs-là.
Nico Anelka aussi.
La sauce n'a pas vraiment pris à Paris. Est-ce que il t'est déjà arrivé d'avoir regretté d'être allé à Paris? Et si oui, pourquoi tu y es allé? Qu'est-ce qui s'est passé à Marseille? Pourquoi cette équipe qui pouvait vraiment faire quelque chose a été démantelée? Du gars est parti aussi, Dalmat, j'en parlais. Est-ce que tu as regretté ce soir?
Regretter, non, pas du tout, parce qu'en fait on était rentré, on arrivait à une époque un peu délicate à Marseille. On m'avait fait comprendre à Marseille que le mieux pour moi c'était de partir, parce qu'il pouvait avoir une rentrée d'argent assez importante à Marseille. Et, il m'avait expliqué qu'il voulait rentrer dans des années transition. Moi, à mon âge, c'est vrai que peut-être que il n'y avait pas trop de réfléchi à cette époque-là. Bon, j'ai dit que j'étais pas prêt non plus à vivre des années de transition. Je voulais vraiment jouer la Ligue des Champions. Je voulais essayer d'intégrer l'équipe de France. Donc, je me disais à ce moment-là que j'avais pas le temps. Donc, c'est pour ça que la meilleure solution pour moi, c'était d'aller à Paris. J'avais eu l'occasion de parler même avec Nicolas Anelka, avec d'autres joueurs à cette époque-là. Et donc, avec ce qui allait se passer à Marseille, qu'on m'a bien fait comprendre que la meilleure chose pour moi c'était de partir. Donc c'était gagnant-gagnant pour les deux parties, en fait, pour Marseille et pour moi. Marseille allait, voilà, les 15 millions d'euros à l'époque, donc c'était une bonne rentrée d'argent pour eux. Et je voyais que c'était un peu dans la suite de ma carrière. Je voyais ça assez intéressant. Donc, regret, pas du tout. Le seul regret que j'ai eu avec Paris, ça a été que, justement, on ne nous avait pas laissé de temps. Alors qu'on était tous, c'était quand même une jeune génération, il fallait nous laisser juste un peu de temps. Et ça a été vraiment le seul regret que j'ai eu, parce que je suis parti trop tôt de Paris.
Peter Luxin est avec nous. Tiens, Peter, justement, pour revenir au classico Marseille-Paris, est-ce qu'il y a une différence d'ambiance, toi, qui as vécu des deux côtés, dans l'avant-match, dans la pression populaire, hein, selon que tu sois Marseillais ou Parisien?
Ah oui, ça, moi, je vais pas faire la fine bouche ici. Je veux dire, ce que je pense, et à Marseille, on la vit, c'est différent. On la sent de n'importe quel secteur ou partie de la ville, on va dire, ou zone de la ville. On sent cette pression, cet engouement, et à Paris, ça a été complètement différent. Parce que Paris, c'est peut-être un peu plus, on va dire que, où j'étais, où je vivais déjà, je la sentais pas spécialement cette pression. La pression, la sentait plus à l'intérieur du club, mais on la sentait pas sur un plan du social à l'extérieur. On la sentait pas. Et à Marseille, je vous dis sérieusement, c'était, je sortais de la maison, je savais que je pouvais voir une dizaine de personnes qui allaient me parler de ce match. Donc c'était vraiment différent. Ouais.
Jimmy.
Pour rester sur le sur ce match, Peter, est-ce que tu suis l'actualité de la Ligue 1 cette saison? Est-ce que tu regardes l'OM? Est-ce que tu regardes le PSG? Comment tu le vois ce match? Et est-ce que tu arrives depuis Dallas à regarder un petit peu la Ligue 1?
Et t'es pour qui?
C'est pas.
À l'accent, on a compris que t'étais pour qui. Ne te dis pas ça.
Non, pas forcément. Attends.
Et non, déjà, je suis pour Marseille.
Bah
je
oui.
Suis pour Marseille, mais après, bon, moi, j'ai une façon et j'ai une optique un peu différente d'approcher un peu ces matchs. Maintenant, je suis plus dans le porté sur le jeu. Donc, la Ligue 1, bien sûr que je la suis. J'ai failli signer dans un club de Ligue 1 il y a pas longtemps, donc j'ai été obligé de suivre tout ça. Après,
Clermont,
on peut voir. Bien.
Bien validé.
Ouais.
Je te l'avais dit avant l'émission.
Ah ouais, bah bon, avant l'émission, je croyais pas. Je lui ai dit ouais, t'es un mytho, pas du tout. Il n'avait pas la Clermont et tout.
J'allais te la poser cette question. Tu as répondu avant ma question. Mais on en parlera après. Ben, on en parlera après.
Et donc là, pour Marseille, après on voit que justement que Marseille a beaucoup plus besoin de ces points que Paris. Paris sont quoi? Ils sont à 12 points, je crois, ou à 13 points du second. Ouais. Après il y a les internationaux, on ne sait pas s'ils vont faire peut-être tourner Mbappé, je ne pense pas, peut-être parce que pour l'importance de ce match, je ne sais pas exactement. Bon, il y a tellement de choses qui rentrent en compte, mais on voit que vraiment sur un plan de vue vraiment besoin, on voit que Marseille, ils ont vraiment besoin de ce match, parce qu'ils sont, ils sont quoi, ils sont à 4 points, je crois, 4-5 points de... Je ne sais même pas si en France, les 4 premiers, ils rentrent en Ligue des Champions.
C'est 3 premiers plus 1 pour tour préliminaire.
C'est 3 plus 1.
Ouais, bon, c'est pareil, à mon époque, c'était la même chose. Donc, ils sont à 4 points de Lille.
Oui,
c'est ça, 4 points de Lille, le 4e.
Exactement.
À 4 points de Lille, donc vraiment, c'est vraiment l'OM a un besoin énorme de faire un bon résultat contre Paris.
Eh bien, tu as lancé le débat qu'on va mener dans un instant après la pause. Tu peux rester avec nous, Peter, si tu veux bien. Il est quelle heure, là, à Dallas? Il est 15h?
Là, il est 3h15.
3h15, bon. Alors reste avec nous, c'est bon, en plein après-midi pour toi, 21h12 en France sur RMC.
Il faut qu'on parle de cet épisode.
Mais quoi?
L'épisode Clermont.
Ouais, moi j'aimerais
bien entendre. Vous êtes vous, bien sûr.
J'aimerais bien entendre Peter sur son passage au PSG, pourquoi ça n'a pas marché, parce que ça reste un traumatisme pour beaucoup de supporters parisiens, cette équipe-là.
Comme toi, Jimmy.
Et c'est une analogie
avec
à faire.
Avec plaisir, vous parlerez de tout ça.
Allez, reste avec nous, Peter, c'est un plaisir de t'avoir dans Génération After. On fait une pause, on revient dans quelques secondes, à tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Simon Dutin, avec Jimmy Brown, avec Willy Dacharchour et avec notre invité ce soir dans Génération After, Peter Luxin, ancien Marseillais, ancien Parisien, à 3 jours du classique entre Marseille et Paris dimanche soir. Ce sera bien sûr sur RMC. Merci Peter d'être avec nous encore une fois. Si tu devais garder un souvenir, toi, d'un classique avec entre plaisir. Marseille et Paris, ce serait lequel? Une image, quelque chose qui te revient là, plus de 20 ans après?
Ah, ne dis pas à Roland que c'est le match au parc en 99, là, sur le but de Bruno Rodriguez. Roland, c'est
une petite perte de balle au milieu de terrain, effectivement.
Ah, oui, on l'a
exact, Roland. Exact. Je me rappelle très bien de ce match, ouais. Bah, je dirais peut-être le.
Un geste, hein, je sais pas, une agressivité, un duel remporté.
Ah, ben, l'agressivité, ça a été plus avec Bruno et que.
Rodriguez.
Ngoti
à l'époque, ouais. Bah.
Et c'était bizarre parce que justement moi j'étais à Paris et Bruno était à Marseille.
Oui, alors que
donc il
oui.
Y a une petite échauffourée à la fin du match entre tous les deux que je m'en veux encore au jour d'aujourd'hui, mais bon, c'est du passé. Donc je vais dire que c'est quelque chose qui m'avait marqué à ce moment-là, parce qu'en plus c'est une personne que j'apprécie beaucoup et que j'aspecte beaucoup. Donc une petite échauffourée, ça a été ça a été assez tendu entre tous les deux à ce moment-là, ouais.
Et juste pour les souvenirs, hein, nous on n'est pas dans vos vestiaires, on aurait adoré. C'était comment l'ambiance dans un vestiaire là, avant un Marseille-Paris, quand tu joues à Marseille par exemple? C'était très différent dans les mots des coachs, dans l'ambiance générale.
Bah, de toute manière, avec les mots, Roland avec tous les autres coachs, il est très différent. Donc Roland, vous savez, vous le connaissez, il est très gestuel, donc ça a été. C'était facile pour nous d'être motivés après les mots et après les causeries de
Mais jouer la rivalité ou pas?
Ah, tout le temps. Bien sûr, il y avait de la rivalité, mais après, de toute manière, même s'il a en joué, il n'avait pas besoin de tout ça pour justement nous motiver. Et après, une motivation, après je peux me tromper encore une fois, une motivation côté marseillaise, elle sera peut-être plus importante que du côté parisien.
Ah, après, minuscule parenthèse.
Attention, je vais me reprendre, parce que là, sinon ça peut aller trop loin. Je parle surtout du côté vestiaire, côté joueur. Après, du côté fan et tout ça, et supporter, ça peut être différent. Ouais.
À l'époque, c'est quand même deux équipes qui n'ont pas été championnes depuis longtemps. C'est-à-dire que le Classico, c'est quand même l'événement de la saison. Peter faisait bien de rappeler que maintenant, c'est devenu un peu plus accessoire pour Paris que pour Marseille.
Oui, la réalité sportive n'est pas la même que dans les années 90. Ouais.
Alors justement, là, Peter nous tend une perche. Hein. Pour qui c'est plus important, Walid, ce match-là? Est-ce qu'il est aussi important pour Paris que pour Marseille? Paris qui a 12 points d'avance, Paris qui est en quart de finale de Ligue des Champions.
On en parlait tout à l'heure. Moi, j'ai un sentiment qui est très partagé parce que, en fait, j'ai l'impression quand même que pour l'image, ce classico pour le PSG est très important. Parce que si ça gagne pas, on va refaire des débats autour de Luis Enrique, de Kylian Mbappé, avant le match contre Rennes et avant le match contre le Barça. Mais comptablement, il ne sert à rien, ce match-là, pour le Paris Saint-Germain. Et de l'autre côté, en fait, c'est totalement différent. C'est que comptablement, il est très, très important, ce match-là. On l'a dit tout à l'heure avec l'enjeu de réduire la marge sur la quatrième, voire la troisième place pour Marseille. En termes d'image, il est aussi important parce que ça reste Marseille, ça reste un classico. Mais de par la saison que l'OM fait et puis la galaxie qu'il y a entre l'OM et le Paris Saint-Germain, plus les blessés, je pense que si l'OM perd le match, c'est pas si grave que ça. En fait, sportivement, on se dira, en termes d'image, hein, je parle, on se dira, c'est normal que le PSG gagne contre l'OM. Donc moi, j'ai des sentiments un peu ambivalents là-dessus. Je sais pas, en fait, bien évidemment que sportivement, c'est le plus comptablement, c'est le plus important pour l'Olympique de Marseille. Mais en termes d'image, si le PSG perd face à ce Marseille-là, ça peut faire ça peut faire tâche.
Simon,
je suis pas tout à fait d'accord parce que à Marseille, même s'ils finissent à 2 mètres du buffet en fin de saison, si tu gagnes contre Paris, tu auras réussi un peu ta saison. Souviens-toi, ils les ont tapés en Coupe de France l'an dernier. On en a parlé pendant des mois. Ouais, je suis pas persuadé.
Peter, tu voulais réagir aussi.
Non, juste que je vais prendre un peu des deux parce que je pense que sur un plan de vue image, c'est sûr que Paris gagner contre Marseille, ben sur un plan de vue image, ça sera toujours important. Après, Marseille, sur le plan de vue comptable, moi, je pense que ce qui est le plus important, c'est que Marseille essaie de rentrer dans une, et d'avoir une compétition européenne. Ça, c'est quelque chose qui sera vachement important pour eux. Et ensuite, j'ai peur qu'un mauvais résultat contre Paris, ça peut jouer beaucoup de mauvais sourds à Marseille pour le suite de la saison. Il leur reste 8 matchs avec celui-là. Ils ont pas des matchs faciles à jouer parce qu'ils vont jouer contre des équipes qui sont en train de jouer le maintien, d'autres équipes qui veulent essayer aussi de rentrer en Ligue des Champions. Donc ils ont une fin de championnat assez...
Et il y a la Coupe d'Europe.
Et il y a la Coupe d'Europe au milieu aussi. Donc un peu des deux là, ça va être
dur à répondre.
Enfin, si tu joues avec
pour Paris c'est une image.
C'est quand même un immense exploit pour l'OM.
On rappelle qu'ils ont pas battu le PSG au Vélodrome en championnat depuis je crois 13 ans.
Ouais, depuis 2013, non?
Ouais.
C'est Ayou a le triplé, le 3-0 contre
2013, c'est pas un peu plus tôt ça?
Ça doit être 2013,
mais
je crois.
Bref,
Ayou, Rémi.
Et pour autant, le PSG, il y a plein d'histoires quand même. Ce sera le dernier, très probablement le dernier OM PSG de Kylian Mbappé qui veut marquer l'histoire. Luis Enrique a parlé de ce match. Il a dit que c'était un match différent des autres parce que l'ambiance du Vélodrome est assez unique.
Ce match-là.
Donc c'est compliqué. Voilà, mais si
il est important quoi qu'il arrive.
Moi là où je fais je mettrai un peu de réserve par rapport à ce que tu dis, Peter, c'est que c'est tellement difficile pour l'OM d'appréhender ce match avec tous les absents qu'ils ont en plus en ce moment. Que à part évidemment s'ils prennent une lourde défaite, ça marquera. Mais s'ils arrivent ne serait-ce qu'à les accrocher et à pas perdre, alors évidemment les supporters, c'est jamais satisfaisant de perdre contre le PSG, ce sera toujours un déchirement. Mais s'ils arrivent à gagner, c'est un immense exploit. Donc c'est pour ça que je pense et j'espère que l'OM pourra se relever d'une éventuelle défaite après ce match-là. Peter, je t'en prie, vas-y.
Non, mais c'est absolument la pression qu'il y a interne. Dans cette ville, après un match contre Paris, elle est assez forte. Après, il y a le niveau un peu sur un aspect psychologique et mental avec les joueurs, que c'est pas évident de jouer à Marseille. C'est juste ça, plus ou moins, difficulté un peu de comprendre un peu les choses avec avec comme les joueurs peuvent s'adapter à une défaite contre Paris sur le reste de la saison parce qu'ils vont devoir oublier une
hypothétique la semaine après défaite. Le match va être dur quoi
la préparation ne va pas être la même pour aborder ces matchs là il y a la Coupe d'Europe j'ai pu jouer des classicos aussi et c'est vrai que la tension elle est assez c'est rude après une défaite contre Paris c'est pas évident à digérer. Après, bien sûr qu'ils devront la digérer parce qu'ils sont sur un autre championnat. Paris, ils sont dans une autre planète. Mais c'est pas évident parce que au quotidien, ça va pas être évident de gérer tout ça, quoi.
Peter Luxon est avec nous. Tiens, Peter, on avait une question pour revenir sur le passé. Pourquoi ça n'a pas marché au PSG à l'époque, là, avec ce grand projet, avec des joueurs français qu'on voulait ramener ici, Nico Anelka, projet banlieue même.
Hein. Ouais, Bernard Mendy, Sylvain Distin, Nico Anelka, Stéphane Dalmat à l'époque, sans citer Fred Duhu qui arrive.
Tout le monde s'était enflammé. On s'est dit, attention à ce pari-là, il va être extraordinaire.
On parlait, moi.
Ah, quand on était jeunes, on se pensait que c'était
extraordinaire de voir tous ces joueurs arriver.
Il s'est passé quoi, Peter?
Bah, pour moi, ça a été assez simple. On nous a pas laissé le temps. Il faut pas oublier que quand même, moi je crois que j'arrive à Paris, j'ai quoi, 22 ans. Dalmat, c'est la même chose. Anelka, même s'il avait déjà une carrière derrière lui, il reste jeune aussi. Donc il y a eu beaucoup de joueurs. Sylvain Distin qui était jeune. Il y avait Bernard Mendy qui était jeune. On avait beaucoup de jeunes joueurs et avec un groupe aussi jeune, on a besoin un peu de temps. On sait qu'on n'avait peut-être pas trop ce temps parce que tout le monde voulait des résultats, mais après il y a une réalité. On restait tous jeunes, une génération très très jeune. On nous a pas laissé le temps. Il y a Louis qui vient ensuite. Pareil, je pense que là aussi, il nous a pas laissé le temps de bien travailler ensemble. Une jeune génération comme ça, il faut pas attendre du succès après 2 ou 3 mois. C'est 2 ans, c'est 3 ans, c'est faire chaque année des apports de joueurs vraiment à des postes assez spécifiques pour justement bien nous entourer et c'est quelque chose qui a pas été fait.
Vous avez terminé 9e de Ligue 1 cette saison-là, exactement.
On termine 9e de Ligue 1, on commence bien la saison, on a cette époque là, cette fameuse époque à Paris là de cette trêve hivernale en tout ça là que on n'a pas bien suggéré. Et donc voilà, pour moi c'est facile. On nous a pas laissé le temps et avec le temps, j'étais convaincu qu'on aurait pu faire des grandes choses. En plus, il y a Ronaldinho qui vient l'année d'après, donc tout ce mix là de joueurs, on aurait pu faire quelque chose de beau.
Ouais. Et après tu pars au Celta pour 3 saisons avant de jouer pour 3 saisons également pour l'Atlético de Madrid et puis le Real Saragosse et le Racing Santander et puis Lausanne avant d'aller à Dallas. Walid, une dernière question.
Oui, moi je veux parler de son actualité, ça m'intéresse et adjoint notamment dans son club actuel. Peter, tu viens d'en parler. Ton nom a circulé. Moi, j'ai suivi de près le dossier Clermontois parce que c'est l'adjoint d'Habib Bey du Red Star, qui est Sébastien Bichard, qui a récupéré l'équipe avec Gastien. Et j'ai entendu ton nom très très haut dans les discussions. Raconte-nous un petit peu cet épisode. Pourquoi ça s'est pas fait? Et surtout, quelles sont aujourd'hui tes motivations? Est-ce qu'on peut te retrouver dans un staff de Ligue 1, numéro 1, numéro 2, dans les prochains mois? Voilà, ça m'intéresse, moi.
C'est gentil que ça t'intéresse, Ben.
Parce qu'on me dit, à l'intérieur en tout cas, du milieu du foot, on me dit que du bien de Peter,
ton travail. Donc, technicien.
Et on n'en parle pas beaucoup, donc...
Merci pour tout ça. Ben, en fait, avec Clermont, comme ça s'est passé, j'avais eu... des relations avec Yannick Flavien qui est, et je vais en profiter pour saluer une personne très agréable, une personne vraiment très très bien. Ensuite j'ai pu avoir une conversation aussi avec Ahmed.
Oui, le président.
Ouais, le président. Donc ça date aussi de fin d'année dernière. Mais vraiment, ils ont été vraiment super parce que du fait, comme ils ont protégé aussi Pascal, de tout le travail qu'il a pu faire à Clermont, parce que si Clermont est là aussi, c'est aussi grâce à Pascal.
Bien sûr.
Donc vraiment, ils ont été. Il y a jamais eu vraiment de décision définitive. Ça a été toujours avec le respect par rapport à Pascal. Donc j'ai vraiment aimé la procédure, comme ça s'est passé, la manière, la touche qu'ils ont pu avoir, donc ça a été super. Et ensuite, même dans le passé, j'ai eu Monaco aussi, j'avais eu Reims avant que l'entraîneur actuel récupère l'équipe aussi. Donc en France, j'ai eu quand même pas mal de touches. Et je m'en cache pas, et de toute manière, c'est pas un manque de respect à ces équipes-là, c'est juste une réalité. Et en Espagne, ça a été la même chose. Donc,
Pourquoi ça se concrétise pas?
Ça a été juste que j'ai eu des touches aussi aux États-Unis en tant que premier. J'ai préféré et je préférais peut-être passer un an aux États-Unis. Après ça, c'est une décision familiale aussi parce que j'ai mes enfants qui jouent au ballon. Et il y a les deux là qui sont pour le moment ils sont bien partis, donc je gère aussi par rapport aux deux, et même avec ma fille qui est à l'université ici aux États-Unis. Après 20 ans de carrière, ma famille m'a suivi, donc là mes décisions un peu sportives, elles passent un peu après les décisions familiales, donc c'est pour ça que je suis pas en France, mais ça arrive.
Ça arrive, et viens à Bordeaux, on a besoin de toi, Peter.
Ouais, par exemple, c'est pas la Ligue 1, Peter, mais bon.
C'est pas grave. Viens nous faire remonter en Ligue 1, ce serait cool. Peter, merci. Puis je rappelle également que tu as la chance pour quelques dollars d'aller voir le des plus grands stars du basket mondial, Luka Doncic à Dallas, hein, au Mavericks. Je sais pas si tu as l'occasion d'en profiter. J'espère.
Si, on a l'occasion. Merci à vous. Merci beaucoup.
C'est un plaisir, Peter. À très vite, enfin, on l'espère.
Ouais.
Merci à toi. Bon après-midi à toi.
À bientôt.
Allez, on revient dans un instant, les amis, pour la suite de Génération After. On va écouter Jimmy, qui estime que, les clubs français, que c'est trop facile de taper sur les clubs français après notamment les réticences exprimées par Flo Maurice à Rennes de libérer ses joueurs pour les Jeux Olympiques. Reste avec nous, c'est RMC, c'est Génération After, 21h28. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Jimmy Brown, avec Simon Dutin, avec Olivier Dacherchour, on est ensemble jusqu'à 22h. Merci d'être avec nous sur RMC. Je vous rappelle, on est également en direct sur la chaîne YouTube de l'After, 142 000 abonnés. Merci.
Très intéressant, d'être Peter fidèle. Dutin.
Ouais, bon client, j'ai envie de le voir en France, client, moi, tu vois, prendre une équipe.
Ouais. J'ai envie d'approfondir tout ça.
C'est intéressant, et qu'il vienne nous voir également en studio, ce serait pas mal. Voilà. Tiens, une info là sur le site d'RMC Sport que j'ai sous les yeux. Xavi Alonso ne sera probablement pas le prochain entraîneur du Bayern. C'est Ulionès qui le dit.
On a compris où il va. Hein,
super, il va aller à Liverpool. Voilà.
Écoutez ce qu'il dit, c'est intéressant. Il dit, nous allons voir s'il est possible de le faire venir cette année, mais ce sera difficile, voire impossible. Disons que s'il avait été à 2 ou 3 années de succès avec le Bayern Leverkusen, il aurait été probablement plus facile de le faire venir.
Ouais, je ne pas qu'il va rester là-bas ou que c'est pas
assez dimensionné pour le Bayern. Et que presque, il n'est pas encore assez expérimenté pour prendre le Bayern.
Ah bah...
Enfin, moi, c'est comme ça, je le comprends. S'il avait 2 ou 3 années de succès, on l'aurait pris.
Comme on peut.
Hein, est-ce qu'il veut pas perdre la face, en fait?
Si,
je te relis la phrase. Disons que s'il avait été à 2 ou 3 années de succès, il aurait été probablement plus facile de le faire venir.
Non, plus facile de le faire venir, c'est-à-dire. Non, mais si lui, il avait envie de venir, ou
ça veut dire que soit il a envie de poursuivre, d'aller voir
la Ligue des Champions avec le Bayern.
Soit qu'il n'est pas aller ailleurs, mais de toute façon, ils se rassurent comme ils peuvent au Bayern. Mais moi, de toute façon, c'est bien fait. J'en ai ras-le-bol, le Bayern, dès qu'il y a un mec qui rince tout le monde, que ce soit sur le banc ou sur le terrain.
Ils ont raison,
ils ont la force pour le faire. Ils vont prendre Wirtz pour l'associer à Moussiala, ça va se faire tout drôle.
Ah ouais,
il va à Liverpool, je pense, Xabi Alonso.
Bah, espérons-le.
Peut-être.
Ou il va rester.
Bon, en tout cas, selon le quotidien Bild également, il y aura une piste, Zinedine Zidane, pour reprendre le Bayern après Thomas Tuchel, avec potentiellement Franck Ribéry comme adjoint.
La transe de Walid.
Zidane au Bayern.
Et pourquoi pas. J'adore ce club, mais pourquoi pas, j'adore Zidane.
Zidane au Bayern.
C'est quoi le problème, grand club?
Ce serait immense.
La Sabonnage Strasseux, les titres, l'histoire, le palmarès, l'ambition.
Ça me fait rien.
Ça te fait rien?
Ah non, Zidane au Bayern, franchement.
Pourquoi?
J'ai le droit, j'ai pas le droit.
Mais je dis pas que t'as pas le droit, on a le droit de tout faire dans la vie.
Ça me fait pas,
Vous n'avez pas le Bayern, c'est comme ça. Ça me ferait pas du tout kiffer.
Bah, Zidane au Bayern.
Mais expliquez-moi, je pose trois fois les questions.
Il n'y a aucun rapport. Parce que pour le coup, il y a un actif avec le Real, il y en a avec la Juve, tu l'attends sur le banc de la Juve.
D'accord, et quand on en parlait à Manchester United, tout le monde trouvait ça.
Ah non, il est d'accord.
Ah, moi, le sexy United.
Ah, moi, non, pas du tout. Pour moi, Zidane, c'est Juventus, équipe de France, Real Madrid.
Marseille, Real, Juve ou Bordeaux. Ou l'équipe de France. Voir Bordeaux, c'est pour faire les gars.
On est une émission sérieuse, mais en tout cas.
Respecte un peu quand même.
Bah, je respecte. Vous avez Albert Guerra qui fait du très bon boulot, non? Ah non, il a encore fait un post Instagram la nuit dernière pour nous expliquer.
Le mec, c'est Mourinho, de toute façon.
Comment il allait battre, c'est quoi, c'est le BFC ce week-end?
Oui,
ouais, il va battre le BFC. Mais, pour revenir sur Zidane, je sais pas s'il parle la langue.
Non, mais d'où le Ribéry adjoint, je pense. Ouais. Mais bon, on n'en est pas là.
Sincèrement, non. Franchement, après,
Zidane, entraîneur principal et Ribéry adjoint au Bayern.
S'il y va, on montera dans le train et puis on regardera, il n'y aura pas de soucis. Mais encore une fois, et aujourd'hui, tu me demandes de choisir.
Guardiola était sexy au Bayern, je sais pas, moi, ça me. Ancelotti un peu moins.
Nico, t'as une faculté à vouloir toujours.
Non, mais c'est très personnel. Il y a un manque de respect pour le FC Bayern qui est quand même. Mais
c'est le FC Bayern
avec 5 grands clubs du monde sans aucune discussion.
On dit juste que immense respect pour le Bayern, ce mariage Zidane Bayern. À première vue là, comme ça, je le vois de loin. Ça me fait rien.
Il est inattendu et qu'on parle d'un immense club, l'un des plus grands clubs, top 3, top 4.
C'est pas le sujet, le niveau du Bayern, les gars. Juste que Zidane,
il aura des moyens. Vous pensez pas, il aura des moyens incroyables.
Zidane au Bayern se battre avec Lyonnais, etc.
Moi, je le vois avec Moussiala, je veux le voir avec Wirtz, s'il le rejoint.
Oui,
c'est extraordinaire.
Oui, c'est
extraordinaire.
Enfin, Wirtz, on n'en est pas là encore. Hein. Puis Moussiala, on ne sait pas s'il va rester non plus. On est dans la spéculation.
Ah, Moussiala, c'est sûr qu'il va partir.
Là, on est des.
Total.
Ouais, vraiment.
Bon. Je rappelle qu'il y a un an, on parlait d'un ticket de Thierry Henry et Nagelsmann au PSG. Donc voilà, il faut aussi prendre avec beaucoup de distance.
Quel rapport ? Non, mais
dans les tickets improbables.
D'accord, ok.
Bon, voilà.
Très bien. En tout cas, bon, ça va commencer sur le chat, etc. Il y a des réactions, non?
Là, c'est la une de foot transfert quand t'étais gamin. Tu te souviens quand t'allais au
kiosque?
T'avais le foot transfert avec Jardim à l'OM. Trezeguet arrive à Paris, là, c'est pareil. Il fait le foot transfert.
Le Bayern, ils vont reprendre Hansi Flick. Voilà.
Non. Si, non.
On prend Hansi Flick. Ils en parlent au Barça. Moi, j'aimerais bien voir ça.
Bon, Thomas Rocha, c'est moins sexy, je trouve.
Thomas Tuchel va aller au Barça, je pense.
Allez, Flo Moris, ça fait beaucoup réagir hier après avoir exprimé sa réticence à envoyer des Rennais aux Jeux Olympiques. Pas d'accord pour en envoyer 3-4. Dans le même temps, Lens est dit prêt à libérer Eli Wahi. On dit diouf. Paulo Fonseca aussi a pris la parole en conférence de presse. Il est carrément enthousiaste à l'idée d'envoyer Lenny Yoro, Lucas Chevalier, Bafolé Diakité. Pierre Sage aussi a dit aujourd'hui que l'OL était favorable à envoyer ses joueurs. Parce que, pour le citer, Pierre Sage, cela serait dommage que les joueurs ne participent pas aux Jeux Olympiques à Paris. Pour certains, Rennes passe pour un club ingrat, mais toi, Jimmy, tu penses que c'est trop facile de taper sur les clubs français? Jingle Jimmy Brown.
Si j'écoute Docteur Jimmy contre le Barça, s'il revient, il sera en pleine forme.
Non, c'est l'inverse. Reposer. C'est toi qui penses que c'est un crime de sortir Mbappé et tu me fais passer moi pour un malade en disant ouais, il a mis Mbappé de côté, etc. Débat.
Vous écoutez le podcast After Paris qui est en ligne.
T'es chaud là.
Non mais
un bon moment avec Daniel, comme toujours.
Docteur Jimmy,
il a plié Daniel. Écoutez le podcast After Paris.
En plus, ça le fait, Docteur Jimmy Mohamed.
C'est vrai, t'as raison.
Bah, appelé comme ça en fin de podcast.
Ah, d'accord.
Alors, Jimmy, on passe au JO. Bah, pourquoi je vais t'expliquer. Moi, j'ai écouté l'after hier soir, j'ai écouté Stéphane Guy. J'ai même écouté Jérôme tout à l'heure, dans l'excellent Rotten sans flamme, parler de patriotisme. J'ai lu beaucoup d'articles depuis la déclaration de Florian Maurice, même certains mexicains que comment Florian Maurice, il peut, lui, qui a été libéré pour les JO à l'époque, qui a pu les jouer en 96, comment il peut ne pas accepter que se faire déployer la moitié de son équipe. Stéphane, hier, dans son propos, il évoque l'intérêt général. Moi, j'ai une question à poser. Qui est garant de l'intérêt général du football français? Si c'est pas la Fédération française de foot. Après ce qu'on vient de vivre à Tokyo, parce qu'on peut pas te taxer de pas aimer le foot au jeu. Nico, tu te souviens, on était ensemble. J'étais tanné pour aller voir France-Japon. On en a pris 4 à huis clos. On était au match. Tu sais ce que tu viens de vivre à Tokyo. Tu sais la désillusion que tu viens de vivre. T'aurais pas pu mieux organiser les choses. Je vais vous donner un petit exemple. Les Espagnols, ils ont fait une loi en 90. Ça date 2 ans avant les JO de Barcelone. Est-ce que c'est une coïncidence ou pas? Je sais pas. En tout cas, ils ont été champions olympiques en 92. Ils ont fait une loi qui obligeait les clubs à libérer leurs joueurs. Et en 92, ils sont champions olympiques avec des joueurs comme Canizares, Albert Ferrer, Guardiola, Luis Enrique, par exemple. Depuis, ils font 2 médailles d'argent. En 2000, avec la génération Puyol, Xavi, Raúl Tamudo, Capdevila, on les connaît. Et là, leur dernier JO à Tokyo. L'équipe, quand même, t'as Unai Simón, Cucurella, ils perdent contre le Brésil, Pau Torres, Ceballos, Pedri, Asensio, Yarzabal, Daniel Olmo, pour ne citer que. Il n'y a pas de problème. On parle de joueurs du Real, du Barça, d'autres gros clubs. Ils n'ont pas eu leur mot à dire. Voilà. Tu imposes, et les joueurs, ils viennent. Je ne sais pas si on aurait pu faire une loi, peut-être pas, je ne sais pas comment ça se passe, mais au moins la Fédé aurait pu imposer quelque chose. Je ne sais pas. Regarde au rugby, tu as eu la FFR qui a fait une convention avec la Ligue nationale de rugby. Tu avais la Coupe du Monde en France, c'était cause nationale. Les gars, vous libérez vos joueurs plus qu'habituellement parce qu'on a une Coupe du Monde à domicile. En France, là, on a Philippe Diallo qui a dit « Ah bah c'est super, Thierry Henry vient, donc Thierry Henry, vu que c'est Thierry Henry le sélectionneur,
tout le monde va venir.
Il va réussir à convaincre tout le monde, c'est formidable. J'ai retrouvé la citation de Philippe Dadiou dans le choix de Thierry Henry à la tête des espoirs. Il y a également cette capacité à pouvoir parler à des joueurs en activité ainsi qu'à des dirigeants de club et à les convaincre que pour que ces joueurs participent à cette compétition, cela fait partie aussi des éléments où Henry me semble avoir un apport essentiel. Donc lui pensait qu'il suffisait de nommer Thierry Henry à la tête de l'équipe de France olympique pour que les clubs ils se disent bon bah les gars,
attends, c'est Thierry les gars.
Florian Maurice, il va se dire tu te mets à la place de Rennes, ouais, par ouais. exemple, t'as Doué, Bourigeaud, Terrier, Truffert, Kalimuendo, potentiellement on parle de ces noms-là. Tu peux comprendre quand même que Florian Maurice, si on ne lui impose rien, si la fédération et par exemple moi j'ai posé la question ce matin parce qu'on travaille, il y a des conférences de rédaction etc. Au terme de conférences de rédaction, j'ai dit est-ce que la Ligue aurait pas pu faire quelque chose, par exemple la LFP dire on donne pas la licence club si vous libérez pas vos joueurs, on se met d'accord, tout le monde devra libérer deux joueurs obligatoirement et il y a pas de discussion, on essaye de convaincre machin. On m'a expliqué la licence club elle se donne sur des critères financiers, c'était pas possible, mais t'aurais pu quand même imposer une mesure coercitive, pas forcément une loi, pour au terme d'une discussion, dire chaque club va libérer deux joueurs, que vous le vouliez ou non. Maintenant, si tu te mets à la place de Florian Maurice, moi, je suis pas obligé. Pourquoi je vais me dépoiler? Pourquoi je vais faire ma préparation avec cinq joueurs en moins? Et en plus, Florian Maurice, il se fait tomber dessus alors qu'il a dit quand même deux joueurs. Ok, je comprends. Moi-même, j'ai fait des jeux. Je comprends l'importance que ça peut avoir, mais ne me dépoilez pas la moitié de mon équipe.
Il a dit deux joueurs. Moi, j'ai pas entendu.
Non, il a dit quatre joueurs.
Oui, voilà. Il a dit je vais pas me déjouer. Oui, j'ai pas des amis d'épaule pour.
Tu peux prendre un ou deux joueurs quand même.
Tu l'as entendu pour la du problème, Jimmy. Si tu veux une loi, je pense qu'il faut plafonner. Tu peux pas non plus demander à certains clubs.
Mais rien n'a été fait. On a juste discuté. On a juste fait des petites réunions en se disant en se tapant dans la main. Bon les gars, vous libérez. Vous êtes sympa. C'est les JO en France. Mais non, tu peux finir.
Voilà.
Le barrage, le quatrième de Ligue 1, il va jouer, on en parlait tout à l'heure, le tour préliminaire de Ligue des Champions. Match aller le 6 août, retour le 13 août. C'est ce fameux match à 50 millions d'euros si tu te qualifies en Ligue des Champions, t'es d'accord que la saison c'est pas la même.
Ouais.
Finale du tournoi olympique le 9 août. Tu te mets à la place de Lille, par exemple, qui aujourd'hui peut prétendre à cette quatrième place. Tu leur enlèves, tu vas dire à Olivier Létang qui va jouer son budget pour sa saison. On connaît la situation financière du LOSC, qu'on en parlait. Tu vas dire, bah, tu vas jouer sans Lenny Euro,
sans Chevalier,
sans Lucas Chevalier. Sans peut-être Bafodé Diakité, peut-être un quatrième joueur. Si on se dit que le au-dessus de 23 ans, ce serait Benjamin André, j'en sais rien. C'est, on peut l'imaginer aussi. Tu peux comprendre que les présidents de clubs, les directeurs sportifs soient pas emballés.
Après, Lenny Oro, il l'aura sûrement plus.
Tout ce que je dis, c'est que c'est un peu trop facile de taper sur les clubs. Qu'évidemment, il faut que tout le monde mette la bonne volonté. Et on veut tous que l'équipe de France olympique est une bonne équipe.
Ah bon?
Mais moi, je pointe. Oui, franchement, oui. Quand tu vois l'Espagne qui arrive à présenter des équipes, comme ça, c'est des JO à Paris. Là, c'est sympa. Le seul truc, c'est que le président de la Fédé aurait dû mieux bosser, ils auraient dû mieux préparer leur dossier, ils auraient dû faire signer un papier à tout le monde et on ne serait pas encore en train d'avoir.
Moi, je veux bien sur les arguments, je veux bien si on discute. Mais moi, ce débat, on l'aurait pas. Ces discussions, même les médias, il y a 4 ans, on a envoyé une équipe en boîte cagette. Ça n'a dérangé personne. On a été ridiculisé et on est sorti au bout de 3 matchs et ça n'a dérangé personne.
Japon, même,
il y a cette espèce
différent.
De tropisme là, les jeux, tout d'un coup, le foot est devenu important parce qu'on va le chez nous. Mais on s'en fout. Je vous l'ai déjà répété, le foot aux JO, c'est on s'en fout complètement. À la rigueur, t'as le football féminin, mais là tout le monde est
le
en train de se dire
à Paris,
oui mais rendez-vous compte, ouais.
Alors pourquoi tout le monde vient pleurer maintenant en disant ah ils sont pas sympas,
mais moi je comprends les clubs, un coup à l'Euro, un coup à la Ligue des Nations, un coup à la Coupe du Monde, et là maintenant il faudrait se mettre à plat ventre parce que c'est les JO. Et alors qu'on n'a jamais performé, est-ce que vous avez le souvenir d'un grand match de l'équipe de France aux Jeux Olympiques? T'as un souvenir?
Mais non, mais on veut, on
nous
veut.
A fasciné avec la fameuse génération dorée, les JO de 84 et tout. Bon, c'est le seul trophée que certains de ces mecs-là ont gagné. Arrêtons un peu. Je suis désolé. Arrêtons de se faire croire que les Jeux Olympiques, c'est que l'équipe de France de foot, bah donc, on l'attend aux Jeux Olympiques. Évidemment, on a envie. Ça fera bien sur la photo.
Bullshit.
Ça fera beau sur la photo. Mbappé en finale au Stade de France. Mais on s'en fout.
Un échec grand pour ces mecs-là.
Parc des Princes.
Ils nous ont quand même vendu. Il y a 3 mois, il y avait quand même une de l'équipe, Thierry Henry.
Ah, mais tout le monde s'y met, hein.
Les Jeux Olympiques, la médaille d'or.
Mais c'est Thierry Henry, Philippe Diallo, le premier
nous,
qui a dit
ça. On est comptable de ça, nous aussi, les médias.
D'accord avec toi, mais si Philippe Diallo n'avait pas présenté l'objectif podium aux Jeux Olympiques, Thierry Henry va nous amener sur le podium des Jeux Olympiques, etc. C'est la fédération qui a fait ça. Mais si tu as ces objectifs-là, moi, je peux entendre ton point de vue, mais si tu as ces objectifs-là, donne-toi les moyens de remplir ces objectifs. Les Espagnols ont réussi à le faire. Pourquoi on n'est pas capable de le faire? C'est ça la question.
Mais il y a 4 ans, ça a dérangé.
Et c'est trop facile aujourd'hui de dire, ouais, les clubs jouent pas le jeu, les clubs sont pas sympas, t'entends Florian Maurice se faire allumer comme ça.
Et puis ils sont hypocrites. Et puis l'hypocrisie, elle est quand même à deux vitesses, parce que si cet été on se vautre au JO là, on va faire des débats nous ici. Ah, comment ça se fait? Comment on peut galvauder une compétition? Comme on l'a fait il y a 4 ans. Il y a 4 ans, je me rappelle très très bien de tous les débats sur Ripoll, sur comment ça se fait que on se fait
balader par le Japon,
etc. Donc l'hypocrisie, en fait, elle est totale. Elle est. Y a même les grands spécialistes comme Daniel Riolo, etc. Ils diront.
On aime taper sur l'équipe de France Olympique quand elle se crache.
Ils diront en août que les espoirs c'est de la merde, les JO on bosse mal, etc. Pourquoi bon, les autres?
T'as voulu introduire Daniel, il va réagir parce que Daniel est également là.
Non, attends, bonsoir Daniel.
Voilà pour. Excuse-moi, bonsoir.
Il a fait exprès, il t'a invité, t'as vu, il est malin.
Non, parce qu'en fait le problème c'est qu'il arrive à 45.
Depuis tout à l'heure, il valide Simon.
Il en sourdine sur les gens, parle.
Mais non, mais Simon a parfaitement raison.
Merci Daniel.
Est-ce que tu racontes avec tes JO qu'au mois d'août on dira c'est pas bien ou c'est pas bien et
tu diras pas, t'analyseras pas toi.
Mais non, et qu'il y a 4 ans on disait que c'était pas bien. Bah oui, parce que même avec une équipe C ou une équipe D faite de mecs de Ligue 1, prendre les volets que t'as pris il y a 4 ans, de toute façon c'était pas normal. Mais donc que tu fasses ton équipe avec un ou deux joueurs, pas plus de chaque, tu t'essayes de faire une sorte de puzzle Ligue 1 ouais. Et tu te démerdes avec ça. Mais avec ça, donne le maximum, personne t'en voudra. Après, si tu vas prendre des valises contre le Japon, le Mexique, le Honduras ou toutes les équipes de la Terre, évidemment, t'auras l'air ridicule.
C'était même pas une équipe de Ligue 1 à Tokyo. Là, c'est ce qu'on essaye de faire pour là, mais
elle était pas si mauvaise, l'équipe. Elle était pas si mauvaise. C'est juste qu'ils ont été bidons parce qu'ils n'étaient pas concernés.
Si t'en as rien à faire des Jeux Olympiques, toi. Enfin,
une fois que la compète démarre, je regarde avec les équipes qui sont en place. T'auras ceux qui auront réussi à convaincre certaines personnes de venir, t'auras ceux qui auront fait leur bricolage.
Il y a un juste milieu à avoir.
Mais tout est un bricolage dans cette histoire. Tout le monde s'est emballé avant, a vendu des trucs sans même savoir s'il y avait. C'est comme si toi, tu vendais des produits de ton supermarché sans même avoir vérifié si t'avais les produits dans la réserve.
Ça, je suis d'accord.
C'est que des mensonges.
Mais on nous a vendu.
On nous a vendu. C'est pas parce qu'on te raconte des histoires que t'es obligé de les croire, Walid.
Ouais, mais.
Sauf qu'au bout d'un moment, il y a des gens qui décident et quand les gens décident, ils disent oh les gars, mais vous nous demandez quand même si c'est possible.
Ils doivent nous rendre des comptes quand même.
Moi, il y a
La fédération française.
Mais pourquoi ils devraient te rendre compte?
Parce que je sais pas. J'ai acheté mes billets.
Ils ont raconté qu'ils visaient un podium olympique. Ouais. Que avec Thierry Henry, on allait réussir à convaincre tout le monde.
D'accord. Alors ils ont le droit de le dire.
Ils ont aussi dit avec Thierry Henry, on va réussir à convaincre tout le monde. Qu'est-ce que ça te coûtait d'installer tout le monde à une table, de faire une convention, de dire voilà les gars, vous signez deux équipes, deux joueurs par équipe.
Si tu dis que eux ont pas réussi à dealer, qui se sont pas entendus avec la ligue pour avoir, je sais pas, un contrat qui aurait pu prévoir un, deux mecs et tout, mais ça très bien.
C'est ça en fait.
De galvauder sur le fait que l'équipe qui jouera au JO, la critiquant, oui, en fonction de ce qu'il y aura, contre qui il joue, comment ça se passe, si le tournoi est intéressant, pourquoi pas.
Bah donc mais on n'a pas rien à faire.
Prioritaire.
On n'a pas rien à faire. Bien, bien Simon, vous n'en avez rien à faire. Moi, ça m'intéresse.
La question, c'est pas si on n'a rien à faire ou pas à faire, c'est qu'après, quand ça démarre, t'aimes le foot, t'as envie de regarder. Bah tu vois mais dans la hiérarchie de ce que je pense, l'équipe de 84 ou les équipes d'après, en fait, au final, quand tu fais le bilan.
Non, Daniel, tu t'en fous, Daniel. Non, mais laisse-moi terminer, Jimmy.
Toi, tu t'en fous pas.
J'ai jamais vécu des Jeux Olympiques en France, d'accord?
Et c'est justement, cool.
C'est tous les 100 ans.
Et puis il y a un effet Thierry Henry aussi.
C'est tous les 100 ans. J'aime bien Thierry Henry
qui le dit. C'est une cause nationale. Les Jeux à Paris, ça doit être une cause nationale. C'est lui qui le dit.
J'aime bien Thierry Henry.
C'est président de la FED. Donc, donne-toi les moyens.
Non, mais laisse-moi terminer, Jimmy. J'aime bien Thierry Henry. Bon, en ce moment, c'est son travail. Je comprends pas. Mais j'aime bien Thierry Henry. J'ai envie qu'il réussisse, d'accord? Ça me hype ce truc. J'ai envie d'avoir une équipe compétitive.
Comme tu dis, c'est une hype. Tu l'as dit toi-même.
Oui, mais j'ai envie d'avoir une équipe compétitive.
T'as le droit d'être dans la hype, j'ai le droit de pas l'être.
Mais t'as le droit, t'as tous les droits. Mais j'ai envie d'avoir une équipe compétitive. Si c'est pour avoir, comme Simon vient de le dire.
De trois mecs au-dessus, de machin, de ceci, de cela. De toute façon, c'est pas le. C'est quoi le travail de Thierry Henry? Il va récupérer des mecs à quel moment? Pour préparer quoi?
Mais si tous les
clubs. Tu sais très bien que ce sera même pas réellement. Toi qui te passionnes pour le travail des coachs, tu sais très bien que ce sera même pas le travail de Thierry Henry. Parce que imagine qu'il récupère trois mecs qui étaient à l'Euro. Ils vont finir le 14. Ils vont finir, imagine que ça va loin. Ils vont finir le 10. Allez, même si tu considères qu'ils vont pas en finale. Derrière, dans la foulée, une ou deux semaines après, sans prendre de vacances ou peut-être avec une semaine, ils vont arriver. Ils auront pas fait de prépa.
Oui.
Ils auront pas bossé ensemble.
Mais je veux
ensemble.
Une équipe compétitive.
Mais l'équipe compétitive, c'est une équipe qui se prépare.
Mais toutes les équipes,
l'équipe des JO. Pourquoi des fois t'as des surprises avec des équipes qui gagnent, on sait même pas d'où elles sortent et tout. Parce que t'arrives avec des équipes bricolées qui sont là que pour la hype. D'autres,
qui
se sont bricolées au dernier moment.
À chaque fois, c'est Brésil, d'autres, l'Espagne, Argentine, c'est les grosses équipes quand même qui gagnent.
C'est les grosses nations qui gagnent.
Mais la façon dont elles vont se construire, ça va être très aléatoire.
Oui, mais pour tous, c'est le jeu des JO. C'est le jeu des JO.
Oui, mais donc c'est bien un tournoi qui est très particulier.
Oui, qui est très particulier.
Qui ne récompense ne sera pas réellement le travail d'un coach parce qu'il faudra qu'il fasse un puzzle un peu bizarre avec des mecs qui auront joué, pas joué ensemble, qui se connaîtront à peine.
Non,
donc, en fait, vous devriez dédramatiser cette histoire et dire
on s'en fout.
Bon, Voilà, il ira c'est... comme il aura envie d'y aller. Voilà. On va regarder parce que ça peut nous faire kiffer au mois d'août.
On s'en fout.
De regarder voilà. un petit
on va mettre un Prouzès, on va mettre un Prouzès en neuf et c'est très bien. Mais on s'en fout.
Arrêtons d'en faire une cause
nationale.
On a compris.
Le foot,
on a compris.
À cause de la FIFA, du calendrier, de tous les intérêts qu'il y a,
on est tous d'accord
tu
là-dessus.
Ne pourras pas avoir une équipe ultra compétitive.
Mon seul point de l'avis, c'était de dire ça, c'est trop facile de taper sur les clubs, de dire ils sont pas patriotes.
Le Brésil, ils en avaient fait une cause nationale. Tu sais pourquoi ils en avaient fait une cause nationale? Oui. Parce qu'ils s'étaient plantés.
Alors
qu'il y avait la déchirure et la question du 7-1. Oui, ils avaient dit, et pour ça que Neymar était hyper impliqué à fond en 2016 pour faire
il
ça.
Il n'avait pas pu être là contre l'Allemagne.
Il était arrivé avec sa bande et tout, et c'était devenu une sorte de consolation de la Coupe du Monde. Voilà, mais ils en avaient fait leur cause à eux, sorte
et
de consolation.
Et c'était pas la victoire quand même.
Allez. Ouais, mais c'est eux que ça regarde. Ils ont battu qui? Ils ont fait quoi? Bah, au fond, c'est une histoire qu'on te raconte.
Allez, Daniel,
c'est un
terminé.
Mytho qu'on t'a raconté.
Voilà, pause. Dans un instant, le quiz de l'after. Tiens, j'ai comme la compo de France-Japon à Tokyo. Bernard Denis, Clément Michelin, Kaloulou, Cassi,
ouais,
Pembele, Beka, Tuzar, Savanier, Tovin, Gignac et Randal Colomoni.
Super,
et Randal Colomoni.
C'était super.
Il y avait moins de faire mieux avec ça quand même.
Allez, pause. Dans un instant, le grand quiz de l'after. Par Jérôme Thomas. À tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Olivier Cherchour, avec Simon Dutin, avec Jimmy Brown. Vous écoutez RMC, Génération After. C'est l'heure du grand quiz de l'After.
RMC, le quiz de l'After.
Voilà, le grand quiz de l'After préparé comme tous les jeudis par Jérôme Thomas. Bonsoir mon cher Jérôme.
Bonsoir à tous.
J'accueille les deux candidats qui dont le vainqueur remportera un bomber shot.
Et Pascot.
Et le perdant est Pascot, la marque iconique new-yorkaise. Et puis le perdant remportera une casquette.
New-yorkaise, ils sont pas à Montreuil.
Ben si, mais... Voilà, pour Shot, ouais. À gagner ce soir.
Ouais.
Ludovic est avec nous. Salut Ludovic.
Toujours dans la mise en valeur, Daniel.
Bonsoir Ludovic.
Bonsoir.
Salut Ludovic. Et bonsoir Nicolas.
Bonjour tout le monde.
Salut Nicolas.
Les amis, un club français joue un quart de finale de Ligue des Champions ce soir.
PSG.
Il est bête, il a rien compris.
Ah merde, excusez-moi. Je m'intéresse au football féminin.
Un autre club français s'est qualifié pour la demi-finale de Ligue des Champions.
Lyon. Quel est-il?
Lyon. Oh, vous êtes insupportable. C'est pour les départager, pour que les mecs choisissent.
Je ne dis pas les règles.
Bah, tu les connais, c'est tous les jeudis pareil. Ludovic, tu choisis quelle équipe?
Je fais le quiz.
Est-ce que tu choisis l'équipe Jimmy, Daniel? Ok. En face, l'équipe Simon, Walid, allez, avec Simon. Nicolas.
Allez,
c'est parti.
Je fais le quiz.
Première question.
On va faire un quiz parodé.
On y va, c'est parti. Premier quiz. C'est Chalon ou non Chalon?
C'est sûr qu'on travaille, parce que j'ai plus un style de non-chalant, c'est comme on dit, je suis pas très chalant.
Je vous demande de la discipline, s'il vous plaît, messieurs.
Très bien, très
discipline,
très bien.
On ne conteste pas les points. Pas merci, quiz, Nico.
Avez-vous été chalant ou non-chalant sur les matchs internationaux des derniers jours? Question de rapidité, tout le monde joue.
Moi, j'ai rien suivi.
T'as rien suivi. En espoir, trois bleuets étaient titulaires sur les deux matchs. Diakité, Koné et...
Odobert.
Non.
Manu Koné.
Doué.
Non.
Un joueur que t'aimes bien, Daniel.
Kefren Thuram.
Un joueur que t'aimes bien, tu l'as cité.
Un joueur du sud de la France.
Oui.
Du sud-est de la France.
Du sud-est de la France. Akliouche.
Akliouche. Non.
C'est là-bas.
Ça souffle.
Mais écoute,
monsieur Jamin, c'est
alors
honteux.
Moi, le maître de la cérémonie, je souffle.
Il a soufflé, c'est honteux.
Moi, il est fou, ça.
Avec les lèvres.
T'as des preuves?
Ouais, non, mais je l'ai vu.
Un zéro pour la team Jimmy et Daniel.
Avant la première question, il dit il veut un quiz tranquille et le mec, il enflamme le quiz.
Walid, j'ai pas triché une seconde.
Mardi soir.
Il faut pas céder aux rumeurs comme ça.
Mardi soir, lors d'Espagne-Brésil, il y avait deux joueurs du Barça sur le terrain en début de match. Lamine Yamal et Rafinha.
Bien joué.
Bravo. Voilà, tu vois.
Bravo Simon.
Voilà. Un partout.
Bien joué. Duel.
Il y a un complot là, il y a quelque chose.
Non, duel des auditeurs.
C'est bon.
Duel des auditeurs. Sur ce match, justement, Espagne-Brésil, il y a un joueur du Barça qui est entré en cours de jeu. Qui est-ce? Un jeune joueur du Barça.
Gavi.
Très jeune joueur. Défenseur central.
Curtis, je sais comment il s'appelle.
Allez, personne, c'était Cubarsie.
Toujours un partout. Allez, on enchaîne. Écoutez, ouvrez les micros, c'est pour tout le monde.
Question pour tout le monde. Lors d'Angleterre-Belgique.
Oui, Kane.
Quel joueur
Tillmans.
A du mal à prononcer Roland Courbis?
Hein? Mangala.
Maguire.
Il a joué, il est entré en fin de match, Volande.
Saka. Il est belge.
Il est belge.
Doku. Vertonghen.
Non.
Angleterre-Belgique. Il y avait le fameux 1-1-1-1.
Doku.
Jimmy.
Batshuayi.
Oui. Batshuayi. En fait, non, là, c'est Roland Courbis qui
faut. Ça va, j'ai pas soufflé, on est d'accord.
Non, pas cette fois-ci, Nico.
Comment ça se passe? Il y a un complot encore?
Non, non, mais j'ai pas compris. En fait, non, c'est Roland Courbis. Il faut qu'on.
Question. Comment Roland l'appelle?
Batshuayi.
Michi Batshuayi.
Et le vrai Batshuayi.
Très mal formulé.
Question bonus pour Jimmy et Daniel. Est-ce que vous pouvez me l'épeler?
Bah, c'est facile. Vous n'avez qu'une chance.
Ah non, vous, vous avez
peu moins.
4 secondes. Non, mais ils ont le privilège du point apporté.
S'ils se trompent, vous pouvez prendre le point.
B-A-T.
Attends, B-A-T, oui.
S-H-U-A-Y-T.
C'est bon.
Putain, c'est fort.
3-1 pour la team Ludovic.
On a fait des
synthés. Est-ce qu'elle est bien la question? J'ai remarqué que quand tu réponds pas, la question n'est pas bonne.
C'est, elle est nulle.
Tiens, c'est qu'à dire.
C'est le projet Voltaire, hein, sincèrement, un projet.
Question de rapidité. Question de rapidité. 7-0, score final du match. Qui est ce joueur qui a inscrit un triplé? Tout le monde a vu ce match. Jordanie-Pakistan.
Al-Tabari.
Oh, c'est fort, oh là à ma droite. Daniel, Jimmy, Ludovic, 4-1.
Il est sur la zone Asie, Jimmy.
Dernière question de ce quiz. Premier tour des qualifs à la prochaine Coupe du Monde. Il y avait un match entre les îles Vierges britanniques et les îles Vierges américaines.
Ouais.
Qui a marqué?
Les deux équipes ont fait match nul. Quelle est la particularité du match nul? Quelle est la particularité
du match nul? Les Vierges.
Match nul les Vierges.
Match
nul les Vierges. 0-0.
5-1. Voilà, c'est
deuxième quiz.
Le quiz. Jeu de mots qu'il faut trouver.
Ouais, le quiz des intelligences. C'est parti.
Un minimum de. Ça s'achetait au supermarché une intelligence. Je pense que tout le monde en achèterait une.
En 7 secondes, Wirtz a inscrit le but le plus rapide encaissé par l'équipe de France dans son histoire.
Akan Sukur.
On va faire des. Ouais, excellent. On va faire des buteurs éclairs, d'autres buteurs éclairs. En 10 secondes, quel est le buteur le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions?
Je le sais. Roy Mackay.
Ici. Oh non, il est là.
5-2. Allez, ça revient, les gars. Encore un effort. 5-2.
Ça n'est jamais de la vie, il a dit avant, c'est juste parce qu'il est plus près.
Non, il a dit.
En 37 secondes, il est le meilleur.
Bernard Lacombe.
Il est le buteur. Oui.
Oui, bien joué!
Bravo, Daniel!
Finis pas les questions donc maintenant.
Attends, mais moi, je vais la question.
J'avais déjà le sien, il l'a eu juste.
On peut dire que c'est la réponse est plus rapide également.
C'est la bonne réponse, c'est effectivement.
6-2.
11 secondes.
Michel Rio.
Akan Sukur.
C'est là!
Non, mais
c'est
la même!
C'est pas 11 secondes!
C'est pas possible!
C'est un quiz rapidité, ouais. On laisse pas faire l'action. On anticipe quand c'est rapide, on anticipe.
Écoutez, question un peu différente. Il était dans le podcast After PSG mardi dernier. Il est en face de moi, c'est Daniel Riolo. En combien de temps il a dégainé? C'est le tout début de l'émission.
1 minute 30 secondes.
Attendez, on va l'écouter. C'est le record absolu de vitesse de craquage dans un podcast. Ouais, c'est très rapide.
Je l'entends.
Écoutez, c'est parti.
Bon match de championnat, 12 points d'avance pour le PSG sur Brest, deuxième. Et c'est l'OM, quoi. Est-ce qu'on peut faire tourner pour un match comme l'Olympique de Marseille?
Mais moi, je pense que la qualité première de Luis Enrique, c'est de ne pas avoir d'équipe type, en fait.
J'ai le droit de m'en aller?
1 minute 30.
15 voilà. secondes.
1 minute 30. J'ai compris sur le podcast.
15 secondes.
Non, mais moi,
je veux
la durée à partir de
20 secondes.
Quand il commence son sommaire, là, quand il pose
15 secondes.
17 secondes.
Alors, 15 secondes. Donnez une réponse.
Pourquoi c'est vous qui répondez pas?
Et vous donnez combien?
Oh, c'est moins que 15 secondes. J'aurais dit 12 secondes.
Eh ben non, victoire. 14 secondes.
Merci, 14 secondes.
Allez, voilà.
Au-dessus, c'est perdu normalement.
On écoute la suite.
C'est pas au juste prix.
On continue. Troisième quiz. C'est encore un quiz des intelligences. C'est parti.
Un minimum de jugeotes, ça s'achetait au supermarché une intelligence. Je pense que tout le monde en achèterait une.
Demain, derby.
Combien de questions encore?
Derby de Lille, tu vois. Il reste 2 minutes.
On peut savoir le score?
Il reste 5-3.
Il y a 7-3.
Oui,
7-3 pour la scène Daniel. Jimmy Ludovic.
7-3, score de la première finale.
Allez, on y va.
Derby Lille lance demain.
Real Eintracht Francfort.
Je vous donne un club et vous devez me donner le club rival, celui qui fait.
Très bien,
le derby.
Excellent.
Strasbourg-Mulhouse, quoi.
Qui fait derby avec Rosario Central?
Newell's.
Ici, parfait, ça revient. Allez, dépêchez-vous, les gars.
On va le faire.
Citez-moi un des deux clubs qui dispute le derby de la lanterne.
Ah, c'est ça, Lille, alors.
Daniel, t'as pas le droit.
Derby.
Qui a dit Genoa? Qui l'a dit?
Nicolas. C'est chez nous, ça.
Tu veux un Daniel?
Allez. 7-5, ça revient, il reste 3 questions.
Allez, c'est maintenant.
Et qui fait derby avec le Wydad?
C'est
bon. Si.
C'est Jimmy. Jimmy l'a dégainé.
Mais bien sûr, largement. Mais de loin, en plus.
Calme-toi.
Qui fait
ça? Non.
C'est très étonnant, t'es pas entendu.
Quoi, Lid?
Qui fait? Allez, maintenant, réponse à 2 points.
Lui fait le derby avec le CF Monterrey.
Le Deportivo.
Quelle tigresse.
Nicolas, bravo, on se fait voler.
Pourquoi on
se fait voler?
T'avais dit
8-7. Allez. Elle est décisive.
Allez, citez-moi le nom complet d'un des deux clubs qui participe au Flaflu.
Flamengo.
Putain,
ah oui, allez, c'est pour nous, merci, bonsoir. Terminé, victoire de Daniel, Jimmy et Ludovic qui remporte
le match. Si on enlève ton premier point, on a triché. Et Raja, on a égalité.
On a gagné facile. Non,
on est gagné sur RMC avec Shot, la marque iconique new-yorkaise depuis 1913. Oui, Shot et pas Scott. Ça fait des années qu'on prononce mal la marque. Toute la collection sur shot-store.com.
Voilà, c'est terminé. Merci Simon, merci Walid, merci Jérôme, Jimmy, merci Jérôme. Daniel Restola avec Stéphane Guy et Thibaut. Jean Grand, l'after est là jusqu'à minuit. Bonne soirée à tous.
RMC Football. Samedi à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine, samedi à Montpellier avec RMC.